Bonjour. La France n'est pas réformable, mais elle peut adhérer à une transformation en profondeur. La phrase est signée Emmanuel Macron. Le président rompt avec le silence pour faire la pédagogie de son action, alors que la réforme du Code du travail inquiète les Français. Et malgré de bons indicateurs économiques, le chômage repart à la hausse en juillet. Pas forcément une mauvaise nouvelle, nous expliquera l'économiste Éric Heyer. L'ex-patron de la lutte anti-drogue mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, François Thierry est soupçonné d'avoir favorisé certains trafics et couvert ses indics pour réaliser de grosses prises. Ousmane Dembélé à Barcelone, c'est quasiment fait. Le transfert de l'attaquant français du Borussia Dortmund devrait coûter 150 millions d'euros au club de foot espagnol, juste derrière Neymar, avec de belles retombées financières pour le club d'Evreux qui l'a formé. Franz Ferdinand, The Kills, Jane et PJ Harvey, c'est le programme alléchant de rock en scène qui commence aujourd'hui au Parc de Saint-Cloud, 3 jours de rock en plein air pour amortir le choc de la rentrée. Et c'est aussi la rentrée littéraire ce matin, Nicolas.
Mais oui, à 8h20, deux romancières au micro d'Inter, Alice Zéniter, Lola Lafont. Elle figure sur la liste France Inter JDD de la rentrée littéraire. Vos questions sur le livre, la lecture, sur nos invités dès maintenant au 01 45 24 7000, mais aussi sur Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
France Inter. On ne l'a jamais autant entendu depuis son élection. Emmanuel Macron change de stratégie de communication. Fini la posture jupitérienne. Depuis la Roumanie, où il achevait hier une mini-tournée européenne, le président français s'est posé en défenseur d'une Europe qui protège. Il en a aussi profité pour livrer ses réflexions sur la rentrée difficile qu'il attend en France. Louise Baudet.
Et Jupiter rentra dans l'atmosphère. Même à 2000 km de la France, il les entend, ses critiques sur sa réforme du Code du travail. Il la voit, sa cote de popularité qui plonge, et il la redoute bien un peu, cette rentrée qui s'annonce périlleuse. Mieux, il en parle, comme devant la communauté française de Bucarest.
La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va et il faut lui proposer de se transformer en profondeur.
Depuis le début de sa tournée européenne, pas un jour sans qu'Emmanuel Macron défende ses réformes. Lui qui s'interdisait tout commentaire depuis l'étranger se permet des digressions très franco-françaises et gratine ses procureurs, François Hollande compris, et exhorte ses ministres restés en France à faire le job.
Il y a des ministres qui portent les réformes. Ces ministres ont à négocier, à y défendre au Parlement et à les expliquer aux Français. Chacun doit être dans son rôle et ses compétences.
Autre nouveauté, Emmanuel Macron parle aux journalistes en petit comité, panel choisi par l'Élysée. Ce off qui a tant coûté à son prédécesseur, il s'en méfie pourtant. La présidence bavarde, il l'a beaucoup critiqué. Mais confronté à son premier trou d'air, il lui faut s'expliquer. Directement peut-être devant les Français d'ailleurs, c'est à l'étude. En attendant, ses troupes ont pour consigne de s'exposer, faire œuvre de pédagogie, rappeler le cap fixé. Des mots qui, aujourd'hui comme hier, réapparaissent aux premières difficultés. Varna en Bulgarie, Louise Baudet, France Inter.
Et petite révolution pour les journalistes qui suivent le président Emmanuel Macron, leur parle désormais en off. Il a confié qu'il comptait s'adresser aux Français une ou deux fois par mois, peut-être à la radio. Cote de popularité en berne, une réforme du Code du travail qui s'annonce tendue et les derniers chiffres du chômage en hausse. Emmanuel Macron devra sans doute en effet faire preuve de pédagogie pour expliquer son action. Ainsi, malgré les bons indicateurs économiques, notamment les prévisions de croissance, le chômage a augmenté d'1% en juillet, passant la barre des 3,5 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité. Paradoxal, pas tant que ça, explique Éric Heyer, économiste à l'OFCE.
La hausse du chômage s'explique en grande partie par une reprise d'activité, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas dans l'activité, qui étaient soit découragées, soit en formation, et qui viennent retenter leur chance à Pôle emploi, qui viennent se réinscrire. Donc cette hausse du chômage s'explique par ce mécanisme-là, qui n'est pas forcément une très mauvaise hausse du chômage. Vous voyez, la mauvaise hausse du chômage, c'est lorsque vous perdez votre emploi et que ça, c'est des personnes qui n'étaient pas dans l'emploi, qui n'étaient pas dans l'activité, qui reviennent tenter leur chance parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de chances aujourd'hui de retrouver un emploi qu'à l'époque. Il n'en reste pas moins que on n'a pas de baisse non plus. Et donc, cela laisse entendre que tout de même, s'il y a une reprise de la croissance, s'il y a bien des créations d'emplois, ben, tout ça reste relativement fragile. Donc, il va falloir pérenniser cette croissance, il va falloir pérenniser les créations d'emplois. Donc, le pari, en tout cas, de la baisse du chômage n'est pas gagné, arrêté.
Des propos recueillis par Delphine Simon.
France Inter, 8h05. Quel est le comble pour un ancien chef de l'office chargé de la lutte anti-drogue ?
Bien être mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. C'est ce qui vient d'arriver tôt ce matin au commissaire François Thierry, après 10 heures d'interrogatoire par les juges d'instruction. Il est aujourd'hui numéro 3 de la sous-direction antiterroriste de la PJ. Il a été laissé libre. François Thierry est soupçonné d'avoir favorisé l'importation de plusieurs dizaines de tonnes de drogue sur le territoire pour faire tomber des réseaux criminels et obtenir des saisies spectaculaires. Des accusations révoltantes, selon l'avocat de François Thierry, maître Francis Spinner.
Aujourd'hui, les trafiquants de drogue peuvent se réjouir, parce qu'on vient de condamner des méthodes avec une formidable hypocrisie. Ce qui est certain, c'est que c'est un coup d'arrêt qui est donné à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Je crois pouvoir dire qu'il y a un sentiment d'écœurement. Quand vous avez consacré des années de votre vie à mener la lutte contre les trafics en drogue par des manières inédites de procéder à des résultats exceptionnels, ce que personne n'a jamais contesté. François Thierry est un grand flic. Eh bien, vous avez un peu un sentiment d'écœurement quand, brusquement, on essaye de vous ravaler au rang de ceux que vous avez combattus pendant des années.
Complicité de trafic de drogue, ça veut dire quoi ? Qu'il y avait un intérêt ? Est-ce que votre client est poursuivi pour corruption, enrichissement personnel ?
Bien entendu, il est hors de question qu'il y ait le moindre soupçon d'enrichissement personnel ou de corruption. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ces qualifications n'ont même pas été envisagées.
Francis Spinner, l'avocat de François Thierry, au micro d'Emmanuel Leclerc. Après le fipronil, attention à l'amitraze dans nos assiettes. C'est également un insecticide utilisé par la société néerlandaise Chickfriend. À l'origine du scandale du fipronil, l'information a été donnée mercredi par le gouvernement néerlandais. Alors, l'amitraze est-il présent dans les produits provenant des Pays-Bas et de Belgique ? À ce jour, la France n'a reçu aucune alerte ni recommandation de la part de la Commission européenne. L'amitraze est certes autorisé dans l'Hexagone, mais sous certaines conditions très strictes. Sébastien Sabiron.
Depuis 11 ans, interdiction de vaporiser de l'amitraze dans les champs ou les bâtiments agricoles. Il est également proscrit dans les élevages de poules pondeuses, mais n'est pas pour autant absent de nos assiettes. Gérard Lasfargue, directeur général délégué à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire.
C'est un médicament vétérinaire qui est autorisé pour lutter contre les parasites, notamment chez les bovins, les ovins, les moutons, les caprins, les porcins. À partir du moment où c'est une substance qui est autorisée, elle peut être retrouvée dans des produits dérivés de ces animaux, par exemple la graisse ou le lait. C'est pour ça qu'on fixe des limites maximales de résidus à ne pas dépasser dans ces aliments.
L'amitraze protège aussi les abeilles d'un acarien parasite. Il est également présent dans certains colliers de chiens contre les tiques. Marcel Kuhn, est directeur de recherche au CNRS à Grenoble. Pour lui, la réglementation européenne trop restrictive est quasiment un appel à la fraude.
Plus on va multiplier les interdictions et plus on pourra se retrouver de manière accidentelle ou de fraude, avec des présences qui ne seront pas autorisées. Ce n'est pas une indication d'un danger de l'alimentation. Il faut arrêter que les gens croient qu'ils vont s'empoisonner parce qu'ils vont manger.
Et de souligner que la Commission européenne aurait dû malgré tout alerter les États membres sur une présence potentielle de cette substance dans les produits contaminés au fipronil, même si l'amitraze est jugée modérément toxique par les autorités néerlandaises.
Et pour tout savoir sur l'amitraze, retrouvez notre dossier spécial sur le site franceinter.fr. 10 millions de Français géolocalisés grâce aux applications mobiles de L'Équipe, du Figaro, de Closer ou encore Météo France. Ce sont les révélations d'une enquête du site Numérama sur la start-up Timo, partenaire de ces applications. Chaque fait et geste de ceux qui sont connectés à ces applis peuvent ainsi être connus, des données ensuite revendues à des entreprises. Alors Timo promet que les données sont anonymes et sécurisées, mais ce n'est pas si simple. Martin Delacoux.
Toutes les deux minutes, l'entreprise Timo permet de recueillir la géolocalisation des propriétaires de portables, en tout cas de ceux qui ont installé une des 50 applications partenaires. C'est illégal si le propriétaire n'a pas été correctement informé. Alors certes, dans une démocratie, ce n'est pas très grave. Mais dans ces cas, il faut penser sur le long terme. Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de la start-up Yogosha, spécialisée dans la sécurité informatique.
À l'heure actuelle, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'être matraqué de messages publicitaires non désirés. Demain, ça pourrait être utilisé par un tout autre régime que celui qui est en place en France aujourd'hui pour faire tout autre chose. On a vu avec les dernières élections que la situation politique, soit en France ou ailleurs, n'était pas d'une stabilité remarquable.
Et si les données collectées ne sont pas bien sécurisées, elles peuvent devenir un vrai danger. Facile, par exemple, de localiser Emmanuel Macron, selon Fabrice Epelboin.
Quand vous avez tout un staff qui, en même temps, se déplace géographiquement, vous savez que vous avez le président de la République. Si une puissance étrangère ou un groupe terroriste venait à récupérer ce type d'information, ça mettrait la présidence en danger.
Pour le moment, l'entreprise Timo semble profiter d'une faille juridique, faille qui sera comblée en mai 2018 avec un nouveau règlement européen.
Martin Delacoux. À l'étranger, deux cadres françaises de la Société Générale mises en accusation aux États-Unis. Elles sont soupçonnées par la justice américaine d'avoir transmis de faux rapports pour manipuler le taux interbancaire Libor. Un mandat d'arrêt lancé contre l'ex-première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra risquait 10 ans de prison à son procès pour corruption. Son gouvernement avait été renversé par un coup d'État militaire en 2014. Elle ne s'est pas présentée à la Cour suprême où des milliers de partisans s'étaient rassemblés ce matin dans l'attente du verdict. Et puis c'est une étude dont les résultats vont sans doute faire réagir. Selon l'institut allemand Bertelsmann, qui a étudié 5 pays, dont la France et l'Allemagne, l'intégration des musulmans dans les sociétés européennes va dans le bon sens. Des résultats qui battent en brèche quelques idées reçues. Avec un bémol, côté français, l'accès au marché du travail reste plus difficile qu'ailleurs pour les musulmans. À Berlin, Cyril Sauvageau.
Éducation, emploi, sentiment d'appartenance au pays d'accueil, ce sont quelques-uns des critères retenus pour cette étude menée simultanément dans 5 pays d'Europe de l'Ouest, France, Allemagne, Suisse, Autriche et Royaume-Uni. Les musulmans se sentent-ils eux-mêmes intégrés et comment sont-ils perçus par le reste de la population? Le constat se veut plutôt positif. La Fondation Bertelsmann souligne de vrais progrès pour la seconde génération, celle des descendants d'immigrés. En France et en Allemagne, par exemple, 95% d'entre eux se disent pleinement connectés avec le pays où ils vivent. Mais dans le détail, les résultats sont plus contrastés. En matière d'éducation et d'accès aux études supérieures, les musulmans de France sont mieux lotis qu'ailleurs en Europe. En revanche, l'accès au marché du travail reste marqué par les discriminations. Résultat, un taux de chômage de 14% contre 5 outre-Rhin. Autre enseignement, partout en Europe, le rejet des musulmans dans la population reste très fort. 21% des Britanniques, 28% des Autrichiens et 15% des Français ne veulent pas de voisins musulmans. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
En Suisse, après un glissement de terrain qui a ravagé une partie du village de Bondo près de la frontière italienne, 8 randonneurs sont toujours portés disparus. Vous avez aimé le feuilleton Neymar, vous allez adorer la nouvelle série footballistique de l'été avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, 20 ans, l'attaquant français du Borussia Dortmund. Il devrait rejoindre le Barça. Bienvenue chez les géants, titre l'équipe ce matin. Son transfert devrait avoisiner les 150 millions d'euros, juste après Neymar donc, et ses 220 millions déboursés par le PSG. Et pour certains, c'est une très bonne nouvelle. Dembélé, formé à Rennes, a d'abord joué à Évreux jusqu'à ses 13 ans. Le club normand va donc toucher une petite partie du montant du transfert vers le FC Barcelone en tant que club formateur. Très bonne nouvelle donc, écoutez le président du club d'Évreux, Philippe Mongreville.
Ça va mettre, comme on dit chez nous en Normandie, du beurre dans les épinards, c'est évident. Je vais pouvoir répondre à certaines demandes de mes coachs et éducateurs auxquelles je ne répondais pas pour le moment parce que nous n'en avions pas les finances, donc je vais pouvoir répondre à certaines demandes, mais ça ne va pas changer fondamentalement la vie du club. Le budget de notre club, c'est entre 5 et 600 000 euros.
Ce n'est pas des millions d'euros qui vous tombent dessus.
De chez nous, il n'avait pas encore 14 ans, hein, donc ça n'est pas comme un... je vais vous citer l'exemple de Steve Mandanda, qui est un ex-hébroïcien également, qui est resté plus longtemps au sein du club et sur lequel la proportion est plus importante. Alors, le montant est plus bas, évidemment, de son transfert, mais la proportion est plus importante parce qu'il est resté jusque l'âge de 16 ans. Voilà, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards du club. Et puis surtout, ça va apporter une notoriété à l'UFC 27 dont elle manque, à mon goût, en dehors de nos frontières régionales.
Alors, on a appris deux choses. Hébreuïcien, c'est ça, et que les Normands mettent du beurre dans les épinards.
Nous aussi.
Ça va faire réagir. C'est plutôt la crème fraîche, je crois, en Normandie. Et c'était donc Philippe Mongreville de l'UFC 27 d'Évreux avec Jérôme Val. Allez, c'est parti pour 3 jours de rock dans le cadre champêtre du parc de Saint-Cloud. Rock en scène fête cette année sa 15e édition. 3 jours de musique pour adoucir le blues de la rentrée avec, comme chaque année, un mélange de têtes d'affiches et de groupes plus pointus. Demandez le programme avec Mathieu Culeron.
Elle est indéniablement la grande tête d'affiche de cette 15e édition de Rock en Seine, l'anglaise PJ Harvey qui viendra faire un concert sur la grande scène demain. Une présence forcément émouvante pour François Missonnier, fondateur du festival.
Elle n'est pas revenue depuis la toute première édition de Rock en Seine, c'était le 27 août 2003, et là elle rejoue à Rock en Seine pour la première fois. Ça va être un grand bonheur de la retrouver. Et il y aura beaucoup, beaucoup de rock, il y aura At The Drive-In notamment pour son seul concert en France de l'année.
Si les valeurs sûres comme Franz Ferdinand et Cypress Hill seront présents, la jeunesse sera également au rendez-vous avec un tout nouveau spectacle pour la chanteuse Jane.
Jane, qui va présenter là pour la première fois en région parisienne son nouveau show, qui m'avait confié une fois qu'elle avait eu sa première émotion de concert à Rock en Seine. Elle était toute petite et c'était devant le concert de Justice.
Rock en Seine, ce sera aussi le retour de Slowdive, la découverte Villejuif Underground et enfin une création signée The Shoes.
Ah, c'est bien. Rock en Seine, c'est aussi sur France Inter. Ce vendredi soir de 21h à minuit, Franz Ferdinand et Flum. Et samedi soir de 21h à 23h, les Fields et The Kills. Donc tout ça en direct sur France Inter, Nicolas.
Merci Corinne Audouin.